toutes et à tous, vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission en direct du Media Lab du WIP, en direct sur Station B et en différé sur sur Radio Pulse. Le thème du jour, la littérature fantasy. Donc pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui, deux auteurs de fantasy normands. Et donc en co-animation avec Alain, nous avons avec nous David, Lafken, Théo, Oxane et Maxence.
Bonjour.
Bonsoir. Salut.
Hello. Ça va?
Tu m'entends?
Super.
Ouais, on t'entend nickel.
C'est bon.
Alors Alain, n'aurais-tu pas une question à me poser?
Oui, j'ai une question à te poser. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que la littérature fantasy?
Il faut tout d'abord noter que la variation historique et la subjectivité rendent le genre plus difficile à définir. Comme c'est un genre moderne, il est en cours d'évolution et la définition varie. La littérature fantasy, née au début du XIXe siècle avec Tolkien, c'est une littérature moderne et contemporaine. Comme son nom l'indique, elle est dédiée aux rêves et à l'imagination. Ses caractéristiques principales sont la présence de la magie, admise comme normale dans le monde, des mondes alternatifs, que ce soit des mondes complètement imaginés dont on peut souvent admirer les cartes en début de livre, comme la Terre du Milieu, ou sur une autre planète, ou alors un monde parallèle relié à un passage comme l'Armoire de Narnia ou le Pas sur le côté d'Ewilan. Il y a aussi l'option de séparer l'univers magique de la population normale, comme dans Harry Potter. On retrouve le thème d'une quête initiatique avec un élu et des monstres, souvent des dragons. Et aussi le thème du sacré, spirituel, qui s'exprime souvent avec de nouvelles religions, parfois polythéistes, comme dans Game of Thrones.
Pourquoi fantasy avec un Y plutôt que fantastique?
Tout d'abord parce que c'est une littérature qui est née et a évolué pendant les premières décennies en Angleterre et en Amérique, mais aussi parce que la littérature fantastique existait bien avant. Donc c'est un genre dans lequel le surgissement du naturel fait choc et crée de l'angoisse, comme dans Frankenstein ou les œuvres de Stephen King.
La littérature fantasy, c'est pour quel public?
Alors, on peut noter que le genre fait appel à l'enfance avec la récurrence des grands espaces, de la magie, des temps anciens, une exploration nostalgique du passé et le passage de l'enfant à l'adulte. Il y a un côté émerveillement très assumé en général, mais ça n'en fait pas une littérature destinée aux enfants. Le Seigneur des Anneaux a été écrit pour les adultes et lu par des enfants, alors que Harry Potter a été écrit pour les enfants et lu par des adultes. Donc il y en a pour tous les goûts, différents niveaux de lecture, et le fait que ces thèmes parlent à tous les âges n'en font pas un genre moindre.
Donc après cette intro qui nous donne quand même pas mal d'informations, nous allons passer aux interviews avec nos deux invités. Alors ce soir nous avons la particularité d'avoir un invité qui est cloué presque au lit avec la grippe, et l'autre invité qui ne pouvait pas venir, donc avec David nous sommes allés l'interviewer. Alors, ce soir, donc, nous sommes avec Édouard Péchard, qui est avec nous au téléphone et qui a la gentillesse de répondre à nos questions malgré sa grippe. Il est prof histoire d'histoire géo en collège et lycée à Avranches. Fantasy historique, il a écrit une série de livres qui se nomme « Les enfants du continent perdu », dont nous avons lu le premier tome, « Les chroniques d'Aliénor, un monde au bord du chaos ». Alors, bonsoir Édouard.
Bonsoir.
Donc, une première question, pourquoi vous vous êtes mis à écrire de la littérature fantasy ?
Alors, moi, ça m'a pris il y a très longtemps, en fait, puisque je l'écris depuis le primaire. Donc, et au début, quand j'ai créé le monde d'Alan Dees, hein, c'est celui-là dont vous parliez.
Oui.
En fait, j'ai commencé. Alors, moi, j'ai commencé à écrire dans un genre plutôt historique, fantastique. Donc avec Alan Dees, en fait, j'ai transposé un monde un peu identique au nôtre, un monde médiéval un peu identique au nôtre, vers en fait un monde beaucoup plus fantastique, beaucoup plus fantasy, pour pouvoir mettre dedans de la magie et surtout des créatures fantastiques. Donc dans Alan Dees, en fait, le risque, c'est le retour d'une, d'une race d'hommes-oiseaux qui pourrait dominer le monde d'Alan Dees si rien n'est fait pour les contrer.
D'accord. Et on va sortir un petit peu du ouais. texte, mais vos premiers lecteurs, c'est qui? C'est dans votre entourage, c'est l'extérieur? Comment ça se passe?
Alors, les premiers lecteurs, au début, moi, quand j'ai sorti la série Alan Dees, j'ai sorti en fait cette série avant qu'elle soit reprise par Farallon Edition. Je l'avais, donc c'était un peu du conte, c'était un peu de l'édition à conte d'auteur. Donc c'était des livres en fait qui coûtaient extrêmement cher et puis qui n'avaient pas été vraiment bien mis en page avec des belles couvertures. Et donc c'est vrai, et les livres étaient relativement chers. Donc je les avais vendus principalement en fait à ma famille. Au début c'était ça. Et puis au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à découvrir l'histoire et donc ça a été le début de l'aventure éditoriale.
D'accord. Et donc, est-ce que on continue à être prof parce que écrire ça fait pas vivre, ou est-ce que on continue à être prof et écrire c'est un passe-temps sympathique et qu'il faut bien que on aime aussi son métier d'enseignant?
Alors moi j'aime beaucoup mon métier d'enseignant. J'aime beaucoup transmettre. Ça me permet en plus le fait d'écrire dans de l'historique fantastique. Alors c'est le cas avec par exemple la saga des enfants du continent perdu. Écrire donc de l'historique fantastique, ça me permet aussi de transmettre en fait un savoir, notamment pour les élèves. Donc j'ajoute en fait des touches vraiment historiques dans mes récits pour pouvoir en même temps faire apprendre des choses et puis découvrir vraiment ce qu'était le Moyen-Âge, parce qu'on a souvent une vision du Moyen-Âge assez pessimiste, alors que finalement le Moyen-Âge c'est quand même une période où il y a eu énormément de découvertes et de choses de faites. Donc l'idée c'était vraiment de faire découvrir le Moyen-Âge au lecteur.
Oui, d'ailleurs, quand on s'est parlé au téléphone avant l'émission, vous m'aviez dit que vous aviez emmené au Mont-Saint-Michel vos élèves. Vous pouvez en parler un petit peu?
Ah oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'ai la chance en fait de travailler à Avranches, donc on a une vue que ce soit enfin au lycée par exemple, on a une vue vraiment spectaculaire sur le Mont Saint-Michel et c'est un cadre vraiment de travail particulièrement agréable. Et du coup, quand moi j'ai écrit Les Enfants du Continent Perdu, c'était le point de départ de l'aventure des Enfants du Continent Perdu. Justement, c'était le Mont Saint-Michel. Et permettre de découvrir un petit peu le patrimoine local. Et l'histoire, en fait, commence là-bas. Et, mais pareil, dans Alan Dees, donc dans Héritier des Dieux, il y a aussi un côté un peu vraiment... on peut, dans certains décors, se retrouver quelque part dans des paysages que l'on connaît. En fait, c'est vraiment ça l'idée aussi de la fantasy. C'est on s'inspire toujours, finalement, de lieux qu'on connaît.
Ok, bah je vous remercie. Je vais passer à l'autre invité par enregistrement interposé. Donc avec David, nous sommes allés rencontrer Julie Steele, d'une jeune autrice d'Hérouville-Saint-Clair. Et dans les douillets fauteuils de la librairie Café Place 26 à Douvres-la-Délivrande, autour d'un café et d'un thé, Julie a répondu à nos questions. Donc elle a 25 ans, elle a écrit son premier roman à 14 ans. Elle se définit comme autrice, chanteuse, comédienne, compositrice, interprète, romancière et rêveuse. Son premier roman s'appelle « Déchu, une village hanté ». On retrouve aussi « Sacrifice, capteur de rêve, moi magicien, serial killer et amoureux ». Bonjour Julis. Donc pour Bonjour Turbine, j'ai une première question à te poser. Comment aussi jeune on devient autrice? Cette précocité, ça m'a étonné. Comment en plus je suis en train de lire un de tes romans, que pour le moment je suis complètement accro? Comment, à 16 ans, on devient d'un seul coup comme ça, on a envie de devenir une autrice?
Alors en fait, ça vient de encore plus petite que ça. À 5 ans, je suis allée voir la comédie musicale Roméo et Juliette. J'ai adoré et j'ai commencé à être dans le milieu artistique à 5 ans, donc chant, danse, théâtre. J'avais tout de suite suite cette créativité, cette envie de créer, d'abord par des chorégraphies de danse et puis aussi par des textes en musique et puis des petites histoires. Quand j'étais petite, je pliais des feuilles et je faisais des mini-histoires. Et arrivé à l'âge de 14 ans, j'ai eu mon ordinateur et tout naturellement, c'est venu. Après le collège, je rentrais à la maison et j'écrivais ma première histoire sans savoir si j'étais en fait capable ou pas d'aller jusqu'au bout du récit. Et c'était l'agréable surprise de voir un jour que j'ai mis le mot fin. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a écrit?
Et donc, au niveau de ton entourage, tu as été soutenu, on a essayé de te retenir. Comment ça s'est passé?
J'ai eu beaucoup de chance d'être énormément soutenue par toute ma famille et mon grand-père était un stit, donc il m'a aidée à corriger mon récit, à apprendre quelques petites choses que je ne connaissais pas forcément sur l'écriture pour améliorer son livre. Et après, on l'a proposé en maison d'édition. C'était vraiment grâce à son soutien que je suis là aujourd'hui.
Il y avait une petite question annexe à te poser par rapport à ça, c'est prendre un pseudo, c'est une protection quand on est jeune ou c'est... qu'est-ce que c'est? Pourquoi on prend un pseudo quand on écrit
Alors pour ma part, le pseudo, c'était une envie personnelle de séparer vraiment ma vie professionnelle de ma vie privée. J'ai ma page Facebook pro et j'ai aussi ma page à moi personnelle. Et j'ai pas envie forcément de partager mes photos de vacances avec mes photos de dédicaces. Donc c'est histoire de séparer un peu les deux.
D'accord. Et pourquoi le monde fantasy?
J'ai été la génération bercée par Harry Potter et puis par tout plein d'autres choses fantastiques comme j'ai beaucoup aimé dans mes premières lectures adolescentes Stephen King. J'aimais beaucoup la série Charmed avec les sorcières. J'achetais les magazines d'Harry Potter où en fait on parlait de chaque créature différente dans chaque magazine, les loups-garous, les fées, les elfes. Et tout ça m'intriguait, tout l'univers fantastique, et j'ai ce côté un peu rêveuse. Et puis ça change en fait de la vie de tous les jours, c'est ça qui est extraordinaire.
Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais tes premiers lecteurs, les gens qui vont relire aussi ton écrit avant qu'il soit édité, c'est qui? C'est familial ou est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui t'aident?
Alors la première personne, c'est mon grand-père. C'est lui qui m'a aidée avec le premier roman et il continue de me suivre encore aujourd'hui avec les autres. Après, j'ai des bêta-lecteurs extérieurs, plutôt des collègues auteurs. Essayer de s'éloigner un petit peu, ou même des personnes que j'ai appris à connaître dans des concours comme Fixia sur Internet, un peu dans le même style que Wattpad, mais un peu différemment. Et en fait, d'avoir des avis vraiment extérieurs de personnes qui ne nous connaissent pas, ça peut permettre d'avoir des avis vraiment de but en blanc de ce qu'ils pensent vraiment. Et ça, c'est super intéressant.
Premier éditeur, comment on trouve? Comment on fait?
Il faut envoyer à plein de maisons d'édition, faire attention aux conditions qui sont demandées pour vraiment rentrer dans les critères, c'est-à-dire la taille de police, le nombre de mots, est-ce qu'on est bien dans la ligne éditoriale. Et puis après, c'est l'envoyer à plein d'éditeurs et attendre d'avoir des réponses. C'est comme ça que j'ai fait pour mes premiers romans. Maintenant, j'ajouterai une autre chose, c'est faire attention en fait avec quel éditeur on signe, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant dans ce milieu-là. Et donc, se renseigner auprès d'autres auteurs de la maison d'édition, savoir comment ça se passe, est-ce que les droits d'auteur sont bien payés tous les ans, c'est une fois par an qu'on est payé, donc savoir si voilà, ils ont bien reçu leurs droits d'auteur, savoir si les salons sont proposés, que ce n'est pas un éditeur qui attend que l'auteur fasse tout le boulot non plus. Ça doit être donnant-donnant en fait. Avoir un bon auteur pour un bon éditeur, c'est important, mais avoir un bon éditeur pour un auteur, c'est aussi important.
Écoute, je te remercie. On va continuer bientôt l'interview. Et là, tout de suite, on va passer à ton collègue Édouard Péchard.
Eh bien, y a une super ambiance, Place 26, en tout cas à Douvres. Du coup, Alain, tu nous as préparé une petite chronique, c'est ça?
Ben oui, l'agenda culturel.
Ok, super.
C'est qui?
C'est quoi?
C'est où?
C'est quand?
L'agenda culturel d'Alain, le conteur flâneur.
Alors, pour ces temps qui viennent, trois événements à ne manquer sous aucun prétexte. D'abord, le 29 mars, dans toutes les bonnes librairies, en particulier Place 26, mais les autres aussi, sortie du nouveau roman de Julie Stilde, qui s'appelle Destiny, les jumeaux maudits et la prophétie, et aux éditions Diamant, la maison d'édition que Julie vient de créer. Ensuite, le 30 mars, donc jeudi, pas qui vient, mais le jeudi d'après, de 17h30 à 20h30, Anna Sam, opticien lunetier à Douvres-la-Délivrande, organise un afterwork dans son magasin 9 Place Georges Le Sage. Alors la Place Le Sage, c'est juste à côté de la pharmacie classée au monument comme Art Déco, qui est absolument magnifique. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir. Alors pendant cet afterwork, vous pourrez voir. Ichromis de Caen photographiera les yeux des personnes qu'il souhaite. Les photos d'Iris deviennent des œuvres d'art. Vous aurez aussi Luca, jeune entrepreneur de Douvres-la-Délivrande de 20 ans, qui vous enseignera comment associer vin et fromage, dégustation à l'appui. Cécile Cré, colorimétriste, vous conseillera dans le choix des couleurs qui vous mettent en valeur en fonction de votre carnation ou regard. Carole Drougard, iridologue normande, examinera votre iris. Cela complète un bilan de vitalité et il permet de révéler vos forces et faiblesses. Et Pascal et Christophe Delboeuf nous feront découvrir leur collection de lunettes plein les mirettes créées en Normandie. Alors pour se faire photographier l'iris, appelez au 02 31 36 52 09 ou sur contact@anasam.fr ou www.anasam.fr pour fixer des rendez-vous, parce que comme il y a beaucoup de monde, il faut que ça soit, c'est gratuit, mais il faut que ça soit organisé. Enfin, le 1er et le 2 avril, à la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair, 20e édition du festival de BD Les Planches et les Vaches. L'entrée, c'est toujours 2 euros. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Les infos sont sur http://vacheetplanches.free.fr. Cette année, il y a un programme avec des dessinateurs et des scénaristes de ouf à ne pas manquer du tout, comme d'habitude, mais en particulier cette année, 20e édition qui va faire du bruit. Et voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Alain. On va se faire une petite pause musicale avant de retrouver nos invités avec May It Be de Enya.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You are you may rise.
Eh bien, nous sommes de retour dans Bonjour Turbine. Édouard, vous êtes toujours avec moi ?
Toujours là.
Alors, on va parler un peu d'édition, si ça ne vous dérange pas.
Non.
Ça aurait été dur si vous m'aviez dit non. Pouvez-vous nous parler de votre éditeur et de ses difficultés ?
C'est-à-dire, alors...
J'ai ouï dire que l'éditeur avait des gros problèmes.
Tout à fait, des problèmes en fait financiers, simplement. Comme beaucoup en fait aujourd'hui, je pense, dans le monde de l'édition, avec notamment par exemple l'augmentation du prix du papier qui peut entraîner des coûts sur les ouvrages, par exemple.
Et là, c'est d'après une personne qui travaille aux éditions, qui m'avait dit, oui. On avait un peu discuté, oui. Ça ne serait pas un mauvais choix d'auteur qui les aurait mis un peu en difficulté ?
Alors, oui, il y a également ça, c'est-à-dire la difficulté aussi dans le monde de l'édition, je pense, c'est le choix éditorial. Après, souvent, c'est comme dans une entreprise, on fait souvent des choix, et en fait, ces choix ne sont pas forcément toujours judicieux, ou du moins toujours rentables.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent vraiment à flux hyper tendu, quoi.
C'est souvent ça, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, en fait, pour un éditeur de survivre. Tant il y a d'éditeurs, en fait, aussi. Tant il y a de maisons d'édition qui se créent tous les jours en France.
Et donc, pour vous, comment vous envisagez l'avenir quant à l'édition de vos livres ?
Alors, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir deux éditeurs. J'ai la maison d'édition A&H Édition, qui en fait est spécialisée plus peut-être dans la BD, mais également beaucoup dans le roman, donc qui m'édite sur la série, donc La Confrérie 2.0. Moi j'ai créé tout un univers qui s'appelle L'Atlanverse, avec dedans quatre séries différentes de romans allant donc de la romance jusqu'à l'historique fantastique, en passant par la fantasy et le thriller. Et pour l'instant, moi, j'ai la chance d'avoir donc cette maison d'édition qui me publie sur La Confrérie 2.0. Et puis pour Les Enfants du Continent Perdu, pour Héritier des Dieux, je suis en recherche d'éditeur, et également pour mon autre saga dont je viens de finir en fait l'écriture du premier tome. Donc c'est pareil. Je vais me remettre à la recherche en fait d'un éditeur pour cette saga-là.
En attendant, si on veut ces romans, on va sur votre site et on vous les commande, c'est ça ?
Comment ? J'ai pas entendu.
En attendant, si on veut se procurer ces romans, on va sur votre site et on vous les commande. Je crois que vous avez récupéré le stock.
J'ai une page Facebook qui s'appelle donc alors Édouard Péchard. J'ai également deux pages donc, qui sont L'Atlanverse et Les Enfants du Continent Perdu. On peut me contacter en fait, via ces deux pages, voire par ma page principale pour me commander les livres. Il suffit de passer par Messenger, c'est extrêmement facile. Je n'ai pas de site marchand à mon nom, puisque en fait, moi, je passe par mes deux maisons d'édition. Donc voilà, mais vous pouvez me contacter. Également, vous pouvez afficher mon mail si vous voulez. Ça permet en fait, de commander mes livres.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, on va maintenant. Puis, pardon. Allez-y, finis. Je vous en prie.
Pour la confrérie 2.0, en fait, on peut commander sur les livres sur les éditions A&H.
Ok.
Donc c'est www.letemps.fr, c'est la maison d'édition, et vous pouvez commander ça en fait dessus.
Ok, merci, c'est noté. Alors maintenant, on va passer à l'interview, la suite et la fin de l'interview que Julis nous a accordée avec David par rapport à la création de sa propre maison d'édition qui, je vous le rappelle, s'appelle Diamant Édition.
Alors, nous reprenons l'interview avec Julis et j'ai une première question à te poser. Pourquoi en autrice qui a trouvé des éditeurs et qui a été édité, on se dit, je vais devenir moi-même éditrice.
Alors ça a commencé puisque les maisons d'édition, les premières avec lesquelles j'ai été éditée, ne se sont pas du tout occupées de mes livres. Donc j'ai fait un peu tout le cheminement toute seule, de trouver des dates de dédicace, me déplacer en librairie, prendre les cartons de livres, les emmener, ranger les cartons. Et puis naturellement, en fait, j'ai commencé à faire une bonne partie du boulot de l'éditeur, qui est toute la promotion. Pareil, les réseaux sociaux, proposer aux lecteurs de les commander directement pour les avoir dédicacés, gérer le Facebook, l'Instagram, appeler les libraires, déposer les livres en librairie pour que le livre soit visible. Donc j'ai fait un peu tout ce cheminement là et je me suis dit bah, en fait pourquoi pas faire moi-même ma maison d'édition. J'ai d'abord commencé par l'auto-édition, malheureusement encore mal vue aujourd'hui par certaines personnes dans le monde du livre, et c'est vraiment dommage. Donc ils veulent pas nous prendre en librairie ou alors dans les bibliothèques, et ça bloque malheureusement encore beaucoup. Donc je me suis dit bah allez, let's go, on va voir pour ouvrir une maison d'édition. À ce moment là j'ai eu d'autres éditeurs qui m'ont édité, avec qui ça s'est bien passé. Donc j'ai fait des stages chez eux, ils m'ont épaulée, et en fait maintenant on est des partenaires, on travaille ensemble main dans la main pour être des maisons d'édition qui soutiennent des maisons d'édition indépendantes, mais ensemble.
Alors une question qui vient tout de suite quand on pense à l'édition, c'est ça coûte de l'argent, c'est un financement. Comment tu fais en démarrant pour pouvoir justement trouver les finances pour éditer les livres?
Alors, on va dire que dans la malchance, j'ai eu de la chance. J'ai perdu en fait mon papa très jeune à 16 ans. Et il avait un petit peu de maison, donc j'ai eu un peu de loyer. Et il y a eu des maisons qui a été vendue. Donc j'ai eu un pourcentage divisé, voilà. Donc j'ai eu de quoi démarrer en fait la maison d'édition. Après, c'est une base pas non plus énorme qui va être... bien pour la première année, et après il faut que la maison d'édition fasse ses preuves et que les livres se vendent pour pouvoir avancer sur les années à venir.
Ça s'appelle Diamant Édition. Pourquoi Diamant Édition?
Je voulais quelque chose qui sonne un petit peu fantastique, et la maison d'édition a 3 collections. La collection Ruby, Romance, la collection Saphir, Imaginaire, et la collection Émeraude, Bien-être et Spiritualité. Donc les pierres collent tellement bien avec le bien-être et aussi avec le côté un peu mystérieux, magie. Voilà, je voulais les 4 gemmes, enfin les gemmes et le diamant en nom de maison d'édition.
Alors sur un plan plus technique, qui choisit les romans ou les livres qui vont être édités? Qui corrige? Qui conseille? Est-ce que t'es entouré? T'as une équipe de combien de personnes? Comment ça se passe?
Je porte toutes les casquettes, je dors pas beaucoup. Après, j'ai de la chance en fait d'avoir toujours mon grand-père qui me soutient, mon petit ami qui fait aussi pas mal d'illustrations, Photoshop, tout ça. Pour le côté commercial, dans les salons, c'est pareil, il me suit, il vient dans les salons. Et on a ce petit concept qu'on a créé ensemble. Lui, il a une compagnie de spectacle, Clown dans la sciure. Et avec Diamant Édition, pareil, on a décidé de collaborer ensemble. Donc il se met en scène aussi, comme dans mon dernier roman, Moi magicien. Il se costume en magicien, il fait quelques tours de magie. Et c'est histoire d'apporter encore plus de magie à cette maison d'édition. Donc je suis toute seule, mais je suis bien entourée aussi à côté de par ma famille et mon petit ami.
Une autre question pratique, hier quand je préparais l'émission avec Marion, on se demandait au niveau de l'impression, au niveau technique, où est-ce que tu fais imprimer les romans, les livres?
France, là j'ai travaillé avec le premier roman avec CEPEC à Paris.
Donc c'est bien, ça c'est parce que souvent on voit beaucoup de maisons d'édition qui pudiquement mettent imprimé en Europe. Et donc là c'est du local, faut vraiment être sûr de soi parce que c'est pas évident certainement de trouver des prix qui ne soient pas prohibitifs.
Exactement, faire beaucoup de devis et puis pas hésiter non plus à parler du fait qu'on va travailler ensemble, collaborer quand même pendant peut-être plusieurs années. Donc si l'imprimeur a vraiment envie de travailler main dans la main longtemps avec quelqu'un, autant que ce soit dans les deux sens, si les prix sont attractifs forcément et si le travail est bien fait, on va travailler longtemps ensemble.
Alors toujours dans le domaine du financement, des sous, est-ce que tu arrives à en vivre correctement? Est-ce que tu es en sécurité financière, je dirais? Et comment se gèrent justement les salons, les différents déplacements que tu peux faire? Est-ce que vous êtes invité, mais à vos frais, ou est-ce que vous êtes défrayé? Comment ça se passe?
Alors, en vivre, non, pas exactement. Avant Covid, il y a eu une très très belle progression et puis le Covid a un petit peu tout cassé. Là, avec le dernier roman, je vois que ça repart vraiment bien. J'attends, j'ai pas encore eu les droits d'auteur, ça fait pas encore très longtemps qu'il est sorti. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est bien reparti. Après, ça, c'est le côté auteur. Le côté éditrice, pour l'instant, c'est sûr que je peux pas me sortir de salaire. Je travaille gratuitement, bénévolement pour mon entreprise. Donc c'est vraiment du plaisir et aussi pour pouvoir méditer moi et pour pouvoir au moins gagner ma vie en tant qu'auteur. C'est aussi le but de cette maison d'édition, c'est de pouvoir me payer les droits d'auteur sur mes livres et pouvoir sortir plein de livres et pas être dans l'attente en fait d'avoir une réponse d'éditeur et que le livre sorte. Ça peut être plus long. Je sais que moi, si j'ai envie de faire une sortie par an, moi je pourrais le faire et j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de récits en cours, donc je peux arriver à une sortie par an sans problème.
Eh bien, merci Edouard, merci à Julice, merci à David de m'avoir accompagné à la technique. Et un grand, grand merci à Véronique et Christophe pour leur accueil dans leur merveilleuse librairie café. Je dis bien merveilleuse parce que c'est vraiment une caverne très sympa qui est donc place 26 à Double à Delivrande. Toujours, depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé, près de la célèbre pharmacie Art Déco. Alors n'hésitez pas à vous arrêter en passant, c'est sur la route de la mer quand vous allez à Luc, soit à l'aller, soit au retour. Si vous avez pris froid ou vous avez une petite soif, vous pouvez vous arrêter pour boire un café, un thé et déguster une pâtisserie. Et en plus, ils ont un programme de dédicace et d'animation de ouf. Alors, allez sur Facebook, Place 26, ou contact@place26.com. Et n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un endroit sympa. Et Douvres, c'est une ville sympathique aussi.
C'est vrai.
Mais j'entends qu'on parle de fantasy par ici.
Oui.
Parfait. Je viens vous donner quelques coups de cœur qui méritent un petit détour. Commençons par l'univers cinématographique. Je vais vous parler d'une histoire qui commence par un jeune garçon qui doit se réfugier dans une librairie. Il ouvre un livre et vit une histoire avec le personnage de ce livre. Si ce début ne vous dit rien, c'est que vous avez occulté comment démarre l'histoire sans fin.
Mais oui, c'est ça.
Cette œuvre, elle m'a marqué. Car on sent que le personnage, il est impliqué dans l'histoire, qu'il la vit. Et que l'univers fantasy présent la rend incroyable. Voilà ce que je recherche quand je visionne un film ou que je lis un roman. Cette implication est magique. J'ai rêvé de chevaucher Falkior, d'aider Ryu, de voir le géant de pierre ou encore la cité de cristal. Et j'ai même eu un crush sur cette petite princesse qui cassait le quatrième mur. La fantasy, c'est un genre que j'affectionne, qui nous fait rêver. Qui n'a jamais imaginé combattre un dragon ? Qui n'a jamais rêvé d'être un sorcier qui lance ses sorts. Le cinéma nous a aidés à l'illustrer, la littérature a repoussé l'imaginaire. Comme beaucoup, j'ai aimé Le Seigneur des Anneaux. Comme certains, je me suis senti trahi de ne pas avoir retrouvé certaines scènes que j'imaginais. Un autre roman qui m'a fait vivre un véritable engouement se déroule pendant les guerres napoléoniennes. On y suit les aventures de Laurence, un capitaine de la marine qui va devenir un membre de l'armée de l'air. L'armée de l'air ? Pendant Napoléon. Mais où est la fantaisie, me demanderez-vous ? Eh bien, elle se situe dans cette armée de l'air, où ce sont les dragons qui la composent.
Ah.
Cette œuvre, elle s'appelle Téméraire. Téméraire, c'est une œuvre qui a été écrite par Naomi Novik et qui va vous raconter donc cette histoire de Laurence, ce marine qui a attaqué un navire, et dans ce navire, il a trouvé un œuf. Un œuf qui était destiné à l'empereur des Français. Cet œuf est un dragon noir qui s'appelle Téméraire. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans cet univers, les dragons, ils parlent.
Trop cool.
Et ça, c'est cool. Donc ça vous montre un petit peu ce que la fantasy peut nous proposer, ce que la fantasy nous fait rêver. Et surtout, on pourra même après parler d'autres genres, comme des jeux vidéo. Mais ça, moi, j'en garde encore un tout petit peu sous le coude pour ma deuxième chronique.
Merci beaucoup, Lafken. Ça donne des idées de lecture. Je ne connaissais pas du tout Téméraire, donc je vais peut-être y jeter un œil.
Mais j'ai vu que tu avais noté sur ta feuille.
Oui, oui, oui. Et maintenant, David, tu vas nous faire une chronique, c'est ça ?
Bah oui, en général, c'est ça.
C'est ça. Ah, bon, très bien. Eh ben, jingle.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire, avec David, entrez dans l'histoire dans Bonjour Turbine.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon défi est de vous prouver que je peux moi aussi inventer une épopée d'héroïque fantasy. D'ailleurs, j'en ai été moi-même le héros. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « ok » pour le côté fantaisiste, car le gars est plutôt drôle, mais pour ce qui est de l'héroïsme, ça reste à prouver. Et si je vous dis que j'ai sauvé de la noyade le chat de Brad Pitt en 2001,
on te croit.
Alors, vous me croyez ou pas?
Oui.
C'est pas de l'héroïque fantasy? Bon, d'accord, non, là, vous avez raison de ne pas me croire. Alors, pour me faire pardonner ma mégalomanie, je vais essayer de réunir les ingrédients nécessaires pour cuisiner une bonne épopée extraordinaire, pleine d'héroïsme et de fantaisie. Ce genre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des légendes fantastiques comme Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc., qui obéissent à un code de narration bien précis. D'abord, il faut un bon titre, bien accrocheur, qui mette l'eau à la bouche, qui interpelle. La quête de la planète du triangle rond, par exemple. Ça interroge. Ouais, je suis d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est de la géométrie dans l'espace et avec une bonne campagne de promo, ça peut passer. On interviewe 2 ou 3 utopistes futuristes de l'informatique, on met Lucchini et les marchands de lessive dans le coup et ça peut passer. Faut une bonne actrice talenteuse qui ouvre l'appétit et inspire les héros. Mais pour cela, je n'ai pas encore arrêté mon choix. Ensuite, je vous invite à déterminer le lieu de l'action. Là, ça s'appellerait par exemple l'Empire des deux côtés. Du coup, on respecte la dualité et les oppositions. L'Empire de gauche qui, contre toute attente, vote à droite et l'Empire du côté droit qui, lui, je vous le donne en mille, vote au centre. Nos héros, 2 chefs de clan, le clan des Loubards, descendant direct des Lombards, et le clan des Nigauds, descendant indirect des Visigoths par le roi Dagobert. Conrad Octogone, chef des Loubards, comme son nom l'indique, possédait 8 pouvoirs débiles, dont celui de cuisiner les moules frites dans une machine à laver. Quant à Clodomir Polygone, son ennemi héréditaire, son cousin au second degré angulaire, il s'était mis en tête d'agrandir son périmètre. Il avait de la hauteur, mais comme beaucoup d'hommes politiques, il ne consultait jamais sa base. Maintenant, il nous faut l'intrigue. C'est la sauce qui va lier tous les ingrédients. Conrad Octogone et Clodomir Polygone avaient une frontière commune, un côté commun. Mais ils étaient opposés par le sommet et situés de part et d'autre. Donc, ils se traitaient de grands connards, de petits clodos. Ainsi, leur entente cordiale était fragile. Les 2 cousins convoitaient la même belle femme Herzeloïde, incarnée à l'écran par Monica Bellucci. En réalité, c'était la fille de Thanès, leur mentor. Allez, j'avais oublié de vous présenter mon grand méchant, le grec Pythagore et ses nains enragés, ses loups-garous et ses satyres et ses sapousses. Qui vole vers lui à tire-d'aile et même à bordel. Mais ça, c'est une autre affaire. Chassons la parenthèse et n'oublions pas qu'alors le signe change de sens et que l'intrigue rebondit. Cependant, ça va aller. Et comme on dit dans l'Empire, ça va Thalès. Thalès, justement, était un vieux mage chevalier, mélange de Perfoura et de Yoda, avec une barbe. Et comme tous ceux de sa tribu, et qui posait d'une voix éraillée des énigmes mathématiques insolvables, ou prédisait le passage des comètes, des TGV, en gare de Lyon, même les jours de grève. La formule magique de Thalès au héros. Sur le chemin de la gloire, tu ne dois pas te complaire, car le sentier de la vérité est sur la route qui te mènera sur la voie de la sagesse. Disait le philosophe, je vais y arriver. Ce qui laissait l'octogone et le polygone pantagonaux et complètement perpendiculaires. Il bouillait alors à 90 degrés, ce qui est la température limite avant réduction au même dénominateur. La quête. Il s'agit de résoudre la quadrature du cercle et la rondeur du triangle. Ce n'est pas facile quand on a comme instrument de mesure un simple zygomètre et une clé à mimolette hollandaise. Pour qu'une mission d'Heroic Fantasy soit vraiment réussie, il faut beaucoup de rebondissements. Et pour cela, utilisez simplement des ballons gonflés, de préférence à l'hélium, un gaz rare, donc cher. Mais pour ceux que les mathématiques rebutent, je leur propose de transposer mon épopée en changeant le titre, les lieux, les protagonistes, les formules et bien sûr la quête qui, je l'espère, sera plus fructueuse que celle de Monsieur le Curé. Vous aurez ainsi réussi une parfaite translation. Eh bien voilà, c'est fini pour ce qui est de mon héroïsme. J'ai quand même sauvé des eaux le chaboté du roi Brad Pitt. Maintenant, ma paresse étant plus importante que ma fantaisie, je pars rejoindre les bras de Morphée, mais je compte sur vous et sur votre imagination pour inventer une nouvelle histoire à dormir debout.
Bravo!
On a trop envie de le lire, ce livre.
Mais ouais, franchement, top. Et puis, l'humour géométrique, c'est toujours une valeur sûre.
Que oui. Tu m'as mis à ravir.
C'est ça.
C'est mon esprit mathématique.
Bien sûr. Mais oui.
Bien connu pour être célèbre.
Et ben, pour se remettre de cette chronique hyper drôle, on va faire une autre pause musicale avec Omnia qui va nous chanter Fira Uri. Bonjour et re-bienvenue sur Bonjour Turbine. N'est-ce pas? On va continuer l'émission avec l'agenda du WIP que Théo va nous présenter.
Exactement, ça y est, c'est le printemps depuis hier. Enfin, le retour hier.
Mais c'est le 21 le printemps? Bon, bref.
Non, c'est le 20. Merde. C'est le 20, tu vérifieras, c'était hier.
Excusez-moi.
T'as fait louper ma vanne. Voilà, je vais être obligé de recommencer. Non, qui dit retour des beaux jours, dit de plus en plus d'événements chouettes qui se préparent au WIP. Je pense que ça ne vous a pas échappé, surtout autour de la table. Mais depuis le début du mois de mars, au WIP, on a inauguré le café dans l'ancien espace du spot.
Oui.
Oui.
Donc je vois que vous êtes au courant. Si vous avez loupé l'info, mais sur quelle planète vivez-vous? Enfin, le monde entier en parle.
C'est vrai.
Et puisque le monde entier en parle... Même sur Mars, j'ai entendu 2-3 gars en parler et ils étaient déjà au courant de l'information que je vais vous donner. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Ils sont trop forts, ces martiens. Mais il y a quelques événements qui vont se dérouler la semaine prochaine au café du WIP. On a le vernissage de l'exposition d'Alban Courcou, donc mercredi 29 mars à partir de 18h. Donc l'exposition, c'est de la photo. Premièrement, elle s'appelle « Ça raconte une fiction, une réalité, une mélancolie passante ou bien une lueur d'espoir ». C'est un regard appliqué à diverses émotions et situations découlant sur plusieurs histoires, ou bien une seule et unique. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça. C'est... J'ai repris tel quel sur sa description. Allez.
Ah, parce que c'est vraiment bien écrit, ouais, pour le
beau,
coup.
C'est... Ouais. Non, c'est pas
c'était
moi.
Super
du coup.
Émouvant, très beau, oui, franchement.
Oui. Mais j'ai mis l'intonation quand même qui allait bien.
Ouais, carrément.
Merci, ça me rassure. Et le lendemain, du coup, ça c'est le mercredi, jeudi, c'est soirée-concert Café du WIP après l'inauguration où il y avait des groupes qui sont venus. Là, on remet le couvert. Jeudi 30, du coup, à partir de 20h, avec le groupe canet Springfire, ensuite Pop Crimes et un DJ set de Gibbon du collectif Culotté. Donc, c'est 5€ l'entrée sur place, il n'y a pas de billetterie en ligne. Mais juste, bah, venez, ça va être bien. Donc, beau programme pour la semaine prochaine au café du WIP. On envoie, on enchaîne, hein, mercredi, jeudi, on n'arrête pas. Et donc, pour les curieux, le café du WIP, maintenant, il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h.
Mais pour le mois d'avril, y a-t-il des choses de prévues déjà?
Mais tout à fait. Dis donc, t'es bien curieuse.
Ah oui.
Mais je vais te donner du coup l'information. Voilà, je vais vous donner l'information. Bien sûr qu'il se passe des choses en avril au WIP. Et bah, si vous voulez prendre de l'avance et save the date, en fait, hein, comme disent les gens, tout simplement. Mardi 25 avril, il y a une sortie de résidence du collectif La Méandre qui est prévue. Et pour plus d'infos, bah, je vais vous laisser aller jeter un coup d'œil sur le site du WIP. Donc www.lewip.com, pardon, on dirait presque que je travaille pas là-bas. Pour celles et ceux qui veulent danser, c'est grand retour du bal latino dans la Grande Nef aussi, vendredi 29 avril. Et voilà, c'est tout pour le moment.
Oh, merci beaucoup Théo, ça a l'air vachement chouette tout ce qui se passe au WIP, c'est ça, non?
Le WIP, mais pareil, c'est un lieu fascinant.
Très bien, très cool.
Juste une chose, avril arrive, mais comme on le dit souvent, faut pas se découvrir. C'était la journée sur le sida il y a peu de temps et donc j'en profite pour dire que c'est toujours une maladie qui tue, donc il faut faire attention. Restez couverts en avril, en mars et même après.
C'est beau.
Bien, ouais,
beau
la prévention alors.
Ok, merci beaucoup. Là, le lancement a été écrit pour moi, je tiens à le préciser, vous comprendrez peut-être pourquoi, mais on termine cette émission en beauté avec une chronique du beau Lafken. À toi.
Vous ne passerez pas. Voilà, la blague et la référence la plus culte sont sorties. Maintenant, attaquons cette chronique. Dans le cadre des folies créatives, je me suis souvent imaginé à écrire de nombreuses choses. Dans l'une de ces folles histoires, je me voyais comme le grand sorcier qui partait en quête avec des gens bas de plafond. Je me voyais comme un dragon brillant parmi le petit peuple, comme une hydre secouant la tête sur « Baby, don't hurt me ». Alors, pour cette référence, chercher Jim Carrey et « Baby, don't hurt me », c'est cadeau. Mais souvent, je revenais à la réalité et me retrouvais parmi les gens. La seule différence, c'est que je n'étais ni sorcier, ni dragon. Dali était-il fou ou sans esprit? Picasso voyait-il le monde en cube?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête?
Moi.
Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte? C'est ça, la folie. Avril approche à grands pas. Et il est temps pour moi de vous dire ce que propose la microfolie de Colombelle pour la première quinzaine. Tout d'abord, nous vous proposons de découvrir plus en détail l'œuvre culte de Schubert, la truite. Cette conférence, qui se fait en partenariat avec le Conservatoire du Sivom, se déroulera le 1er avril à 11h. Le 5 avril, à 14h30, pour une microfolie en famille, où nous vous proposons plusieurs œuvres et de vivre l'expérience des médiateurs, expliquer une œuvre en faisant quelques recherches. Ce sera sur la thématique du Moyen-Âge en plus. Le 6 avril à 14h30, on fait venir le musée de Normandie à nous. Ouais, on est très fort. Pour vous parler des Vikings et des Normands, une avant-première à l'exposition qui se tiendra au musée de Normandie dans la salle du rempart. Le 8 avril, à 14h30, on reste sur la thématique des Vikings en vous proposant une séance avec le Discovery Tour Viking Edge d'Ubisoft, une véritable plongée dans la vie des Danois. De quoi vivre et jouer en même temps. Enfin, le 15 avril, toujours à 14h30, on en fait des choses à 14h30, on propose à vos enfants, petits cousins et autres de moins de 16 ans de venir participer à un artiste en carton où vous pourrez découvrir l'art des vitraux et de leur conception. Une quinzaine chargée pour ce début du mois d'avril. Et maintenant, place au quiz.
Ouais,
yes, super.
Alors, on va rester sur la thématique de la fantasy, bien évidemment. Qui a créé plusieurs langues avec son orthographe et grammaire pour étoffer son œuvre ?
Tolkien.
Oui, c'était très simple. Effectivement, Tolkien a eu l'occasion de créer la langue elfique, la langue naine, et je crois même qu'il a créé un petit peu les syllabes pour les Uruk-hai.
La langue de bœuf sauf piquante aussi, c'est pas lui ?
L'humour de cet homme me ravage. Quel univers a été adapté au cinéma en 2000, qui a été un flop, mais qui est réadapté actuellement ?
Donjons et Dragons, non, c'est pas ça ?
Effectivement, bien joué. Le premier Donjons et Dragons qui est sorti dans les années 2000, qui est tiré dans l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons, qu'on peut retrouver, effectivement, que je vous invite un jour à essayer si vous souhaitez être un grand barbare avec une voix de fillette.
On peut d'ailleurs y jouer à éphémère des fois, le vendredi soir à 20h.
Effectivement.
En face de à la prairie.
À la MJC de la prairie. Si je vous donne les noms de Pélis, Bulrog et du Rige, ça vous dit quoi ?
Seigneur des Anneaux ?
Non.
Tu peux répéter la question ?
Si je vous donne les noms de Pélis, Bulrog et du Rige.
Du Rige en un seul mot ?
Rige.
Rige.
R-I-G-E.
Rige ! J'ai pas non plus, non.
C'est des prénoms ? Non,
c'est le c'est les prénoms de trois personnages issus d'une bande dessinée sur la thématique de la fantasy. Pour moi, une des œuvres majeures d'un artiste français.
Répétez ce qu'il a dit.
Il a dit quoi, David ?
Alors, David a dit L'Enfeust.
Non, ce n'est pas L'Enfeust.
C'est ce que j'allais dire aussi.
Donc, c'est tiré d'une œuvre qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps de Loisel.
Si vous ne connaissez pas.
Alors, du coup, allez voir Loisel, lui et son univers, c'est juste magnifique. Okay. En tant qu'amateur de fantasy, j'ai grandement apprécié.
Il y a Maxence qui avait précisé.
Est-ce que c'est celui qui a fait le Peter Pan là, un peu
Oui, c'est celui qui a fait le Peter Pan. Okay. En tant qu'amateur de fantasy, j'ai grandement apprécié l'initiative de la BNF de proposer une expérience littéraire venue de mon enfance. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut être ?
T'as quel âge ?
L'âge que j'ai.
Entre 20 et 63.
Alors, je pense que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont dû vivre quand on pense à la fantasy et à la littérature et qu'on souhaite vivre un peu une histoire. Mm-hmm. C'était une série de romans très intéressante.
Fais-moi peur. Non, pas rien.
Non, on n'est pas sur la fantasy.
C'est
mais...
le héros, l'aventure où t'es le héros. Un truc comme ça, là. Les livres dont vous êtes le héros.
Les livres dont vous êtes le héros. Et alors du coup, eh ben, la BNF vous propose de revivre toute cette aventure en allant sur leur site. Donc il y a un nom qui s'appelle Fantasy de la BNF qui vous permet de faire une aventure dont vous êtes le héros.
Trop bien !
C'est bien ça.
Et sur le site de la BNF, il y a aussi des dossiers très complets sur la littérature fantasy. C'est hyper interactif et tout, c'est hyper fun. Voilà, si vous voulez en savoir plus.
Alors, là on va... Une petite question encore... On va partir dans l'univers cinématographique où cette fois-ci je cherche le nom d'un sorcier, non pas Harry Potter,
ouais.
Qui est joué par Warwick Davis. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Warwick, c'est dans League of Legends, mais.
c'est pas ce plus d'indices.
J'ai envie de tester Willow comme ça au pif. Mais
cet homme est un monstre. Effectivement, c'est bien Willow.
Que j'ai jamais vu, du coup. Mais
qui est un magnifique film, en fait, sur l'univers fantasy où Warwick Davis. Qui est connu entre autres par beaucoup d'autres rôles. Vous avez dû le croiser sur Harry Potter dans le rôle de Flitwick.
Ah, c'est lui.
Le professeur Flitwick,
et même dans le rôle de certains gobelins. Et cet homme joue Willow, et d'ailleurs, ils ont ressorti une série qui est juste fantastique.
Oh ouais. C'est un jeu de mots, non?
Je vais répondre oui pour la forme. Alors, est-ce que j'ai le temps d'une petite dernière ?
Oui.
Maxence, je t'exclus de cette question.
D'accord. T'es trop fort.
Quand on parle fantasy, on peut aussi penser à une saga littéraire qui a été adaptée en jeu et en série.
Ah,
un indice.
Ouais, je me tais aussi du coup.
Ouais, tu peux te taire pour l'instant, je vais attendre un peu.
En jeu et en série,
il y a d'autres indices dans la question ?
Tu peux
petit
donner
indice.
L'ordre dans lequel ça s'est fait.
Jetez-lui une pièce si vous le croisez.
Le Witcher.
Effectivement, c'est bien The Witcher.
J'ai pas joué, mais j'ai lu.
Voilà, alors c'est pour ça, il existe de plein de manières différentes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je ne parlais pas de jeux vidéo tout à l'heure.
J'ai même hésité en voulant en parler aujourd'hui.
Et effectivement, The Witcher, qui est une très bonne œuvre de fantasy que je vous recommande de lire, de jouer et de visionner. Et pareil, un autre jeu de rôle et surtout jeu vidéo qui est super intéressant, c'est Baldur's Gate, que je peux aussi vous conseiller. On se replonge dans l'ancien.
Ok, et ben merci beaucoup Lafken. J'espère que vous avez tous fait le quiz chez vous et que vous avez eu zéro faute comme moi. Bon, c'est bon, on ne redira pas les scores.
Ou zéro réponse comme moi.
Moi, j'avais tout bon.
Bravo, Lafken, c'est bien. Donc, je tiens tout d'abord à remercier nos deux invités, Édouard Péchard et Julie Stild, qui ont répondu à nos questions. Merci beaucoup. On remercie aussi la librairie Place 26 de Douvres d'avoir accueilli l'interview. Je vais remercier tous les gens autour de tous les micros du studio, donc Oxane, Théo, Lafken, David, Maxence et mes malins. Eh oui.
Et merci Marion pour la qualité de l'animation.
Ouais, super.
Merci à toi.
Merci Marion.
On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à dans deux semaines. Salut.
Ciao. Salut.